Migration, c'est une des enfin, la situation est une de celles qui me font craindre l'avenir, au sens où ce qu'on a, certains ont dit, vous savez, socialisme ou barbarie. Là, je me dis, on est bien engagé côté barbarie. Mais pour ce qui est de mon propos, je dirais que votre question ne s'adresse pas exactement à mon propos, parce que dans ce cas-là, c'est au fond ni la science ni la technique qui ne sont en jeu. C'est la décision que la filiation compte. Les tests ADN sont un des moyens de dire la filiation, mais c'est comme, de ce point de vue-là, c'est comme les compteurs Gégère. C'est-à-dire, ça détecte ce qu'on lui demande de détecter.
C'est la science contre le droit, en fait.
Ben non, c'est pas la science. C'est pas la science parce que le fait qu'on dise il importe de savoir si tel enfant est bien biologiquement lié aux parents qui se présentent comme tel, eh bien, la question, c'est qu'on décide de poser cette question, mais la filiation biologique n'est pas plus scientifique que quoi que ce soit. La notion de filiation est une préoccupation humaine qui n'a rien de biologique. Le fait qu'on emploie des instruments biologiques, qu'on décide ici d'employer des instruments biologiques pour la définir, ça c'est une décision politique. Mais le fait que la filiation soit biologique, c'est pas scientifique. C'est ni scientifique ni non scientifique, parce que la filiation n'est pas une question scientifique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
C'est une question purement juridique. C'est juridico-politique de A jusqu'à Z. Et on prend un instrument qui sert aux enquêtes policières, qui sert à toutes sortes de choses, qui met le bordel dans les ménages, puisque comme vous le savez aujourd'hui, on peut envoyer par web à une adresse discrète des échantillons un père découvre avec affolement que 3 sur 4 de ses enfants ne sont pas les siens. Enfin, ça fait le bordel partout. Mais donc les tests génétiques apportent des questions, dans ce cas-là, apportent des réponses, mais c'est vraiment celui qui pose cette question-là qui porte la responsabilité de la question. En l'occurrence, l'État.
Moi, je voudrais simplement dire à ce propos, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais qu'on n'a pas été assez attentif, les sociologues en particulier, à tous les discours autour de l'identité, et d'une identité qui renvoyait, en fin de compte, à cette filiation génétique. Hein, lorsqu'on a dit un enfant qui a été adopté a un droit imprescriptible de retrouver ses vrais parents. Et tout le monde y allait d'une petite larme, l'émission sur Arte, on voyait la jeune fille qui faisait passer, qui retournait au Cambodge et qui faisait passer des tests à tous les hommes qu'elle rencontrait susceptibles d'être son père, qui disait oh non, celui-là, je voudrais pas que ça soit mon père, ah ouf, le test c'est pas bon. Tout ça, ça a préparé ce qui nous arrive maintenant en pleine figure. Et là c'est un autre problème, c'est vraiment.
Effectivement, je crois, mais là il s'agit surtout de sciences humaines, psychanalyse et autres, mais qui se drapent d'une autorité, etc. Parce que on a eu le cas de figure inverse qui était tout aussi normatif, qui est dans les cas de procréation assistée. Seul le géniteur symbolique compte.
Voilà, exactement.
Donc, on lance dans le public des messages au nom chaque fois d'une autorité de type scientifique, là où c'est plutôt une construction culturelle, politique et culturelle active qui aurait la réponse, et où l'autorité d'une espèce d'anthropologie de type scientifique n'a rien à faire.
C'est une question de localisation du débat, en fait.
Mais oui, et ce que nous savons, c'est effectivement que qu'est-ce qu'un enfant est une œuvre culturelle. En Afrique, l'adoption est normale.
Jacques Berleur.
Oui, moi j'ai une question sur l'institutionnalisation des juifs citoyens. Je songe par exemple au Danemark avec son technologie Redet et ses conférences consensus qui ne sont pas simplement un jury citoyen examinant l'expertise et la contre-expertise, mais c'est eux qui rédigent, c'est le public qui rédige le procès-verbal de la conférence de consensus. Je songe à un autre exemple qui est celui du Rathenau Institute en Hollande. Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez. Moi, je n'aime pas beaucoup le public assistant à des experts contre experts.
Bah, le public, c'est un jury.
Un jury.
Oui, c'est un jury, je veux bien. Mais enfin, c'est un jury de citoyens qui juge des experts et des contre-experts.
Qui entend, comme un jury d'assises.
Mais pourquoi ce citoyen lui-même ne pourrait pas avoir le droit d'abord lui-même d'élaborer, comme au Danemark, la recommandation, si vous étiez d'ailleurs transmise au Parlement danois, hein?
Oui, non, c'est une possibilité.
La question est, comment est-ce que vous voyez l'institutionnalisation de cela dans un pays comme le nôtre?
Est-ce que c'est une chose qui existe aussi?
Il y a eu deux tentatives, il y en a eu quelques-unes en France, et ça s'est souvent heurté à l'idée... on fait comme si on décidait, mais cette décision se perd. Je crois que le Danemark a effectivement une tradition politique extrêmement différente. Mais je connais mais peut-être très gentil, je connais des sociologues danois qui participent à ce genre de conférences, et vu de près parfois... un tout petit peu plus de polémique, c'est-à-dire de contre-expertise, serait bienvenu au niveau du choix de la question. Il y a une dimension peut-être qui un peu lénifiante dans les modèles danois, qu'on ne voit pas de loin, mais quand tout à coup on entend parler de telles conférences vues de près, tiens, on se demande, la première réunion, celle qui décide des questions qui vont être posées, de comment elles vont être posées et de ce qui sera proposé, on voit qu'elle a énormément de... quoi, et qu'elle produit la possibilité déjà d'un consensus. Donc, pour moi, c'est une question politique très grave, comment c'est constitué. Et j'ai l'impression qu'il devrait y avoir plusieurs modèles, et que la notion de jury citoyen me semble intéressante là où il y a véritablement une situation de controverse ouverte, comme avec les OGM. Tandis que la notion de conférence de citoyens pourrait être quelque chose sur justement un sujet où il y a plus de consensus, mais où la question est comment accompagner, et où la notion alors de recommandation a plus de sens.
Instituée par qui?
Quoi?
Instituée par qui?
Quelle?
Les jurys de...
Oui. Ben, les jurys de citoyens, il me semble que justement, je crois que des choses comme l'Institut Rathenau, je crois que ceux qui l'instituent sont ceux, devraient être ceux qui ont des comptes à rendre par rapport justement à ce qu'ils ont appris sur comment des citoyens, quel type de procédure, c'est toujours expérimental. Quel type de procédure permettent que le sujet se déploie de manière correcte et pleine? C'est-à-dire que la formulation de la question n'induise pas un certain type de réponse. Et je crois que c'est là, sur cela, par exemple, Pierre-Benoît Joly a participé à, je parle à sa place, mais à quelque chose que l'INRA avait demandé sur, encore une fois, des organismes génétiquement modifiés, mais de vigne. Eh bien, ça s'est assez mal passé, alors qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Peut-être parce que ceux qui l'ont organisé étaient tellement contents que l'INRA se mouille là-dedans, que, eh bien, ils ont formulé la question sur un mode tel que les groupes les plus montés, les plus polémiques contre ça, se sont exclus, ou ont été exclus. Ce qui fait que ça n'a rien produit finalement, parce que ceux qui étaient les opposants sont restés des opposants, n'ont pas été modifiés. Donc comment et à quelles conditions les contestataires, ceux qui ne veulent pas simplement que les choses soient bien faites, mais qui disent ceci, il ne faut pas le faire, comment et à quel prix ils peuvent accepter de participer à ce genre d'exercice? C'est une des questions qui doit être posée. Et encore une fois, la confiance, dans ce cas-là, étant donné le modèle déficit d'où nous venons, la confiance, ça se mérite. Ce n'est pas, est-ce que vous, enfin, maintenant qu'on est ouvert, venez, quoi, venez discuter. Non. La confiance, ça se mérite. C'est-à-dire qu'il faut aller très loin pour qu'eux acceptent de faire confiance dans ce qu'on leur propose. Ça, ce serait mon point. C'est que il ne faut pas simplement leur ouvrir la porte. Il faut aller à Canossa et leur dire « on a besoin de vous ».
Ce qui m'étonne un peu dans votre exposé, c'est que vous placez cette initiative des jeunes citoyens, qui est très intéressante, dans un contexte de crise de confiance dans les experts et pas de crise de confiance dans le politique en général. Au fond, on pourrait imaginer que c'est quand même le rôle du politique de décider entre... Pour les choix de la société. Or, dans un contexte de crise de confiance du politique, on a peut-être besoin d'initiatives citoyennes pour combler, en quelque sorte, cette confiance. Et la seconde question que je voudrais poser, c'est comment vous gérez la question de la proximité. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez ces jeunes de citoyens dans un contexte de proximité, c'est-à-dire qu'une collectivité locale pourrait dire oui sur notre territoire et une autre collectivité locale pourrait dire non sur leur territoire, ou... Parce que finalement, la confiance pourrait davantage fonctionner dans la proximité, ou est-ce que vous imaginez cela plutôt à un niveau plus national ?
Ça dépend du problème. Ça dépend vraiment du problème. Pour les OGM, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est à un niveau national, et même peut-être plus que national, européen, puisque... Mais ça dépend vraiment du problème, c'est-à-dire de la tâche du problème avec les rapports de proximité. Ou non. Pour les OGM, c'est des milliers et des milliers d'hectares. Enfin, c'est justement la délocalisation de la chose qui est en question. Donc, je ne suis pas une voyante. Par contre, pour la crise du politique, ça, j'ai une réponse beaucoup plus forte. Parce qu'on dit toujours qu'il appartient aux politiques. Et quand on voit les choses telles qu'elles se sont passées, c'est dans ce cas-là, le politique n'est pas du tout outillé pour prendre la mesure d'une... proposition d'innovation technico-sociale, scientifico-technico-sociale ou scientifico-technico-culturelle. La référence au progrès fait qu'en général, le politique est complètement court-circuité. Donc, dire, c'est ce que les scientifiques disent, « Ah, nous !» On fait que proposer, c'est la responsabilité du politique. Mais ce qu'ils ont proposé, c'est pas une contribution à un problème, c'est le problème et la solution. Et il reste au politique à dire oui ou non, trop tard. Comme Michel Gallon et consorts le disent, et le politique pour le moment n'est pas outillé pour ça, et les jurys citoyens sont une piste qui outille pour cela, la question devient effectivement politique quand... C'est y compris la formulation du problème qui a été discutée politiquement et pas seulement l'acceptabilité de la solution. Donc ça, dire ça appartient aux politiques, c'est la vieille division fait valeur, possible choix, etc., qui a été un mot d'ordre qui en fait a permis, parce que le politique encore une fois n'est pas outillé pour ça, qui a permis de laisser la roue libre à la liberté des entrepreneurs qui transforment notre monde hors politique.
Mais qu'est-ce qu'il fait?
Donc c'est toujours quand il y a eu des mouvements sociaux que les choses ont pu partiellement entrer en politique, mais jamais sur un régime normal.
Mais qu'est-ce qui fait aussi que tout ce qui appartient au domaine de la science et des technologies ne fait que rarement débat. C'est un débat tout à fait confisqué et on a l'impression qu'il y a...
Mais il faut bien se dire, il y a beaucoup... Je vais remonter un petit peu plus haut. Il y a beaucoup de discussions sur pourquoi la science moderne en Europe et pas ailleurs et à un autre moment. Et la réponse qui m'intéresse le plus a été donnée par Needham, qui a étudié, qui a fait la comparaison Europe-Chine, en fait, qui s'est intéressé à la Chine pour ça, et qui dit l'une des différences, mais qui ne marque pas l'Europe en général, mais l'Europe qui se dessine, 16e, 17e siècle, c'est entrepreneur, droit d'entreprendre. Donc, la science a partie liée avec l'esprit d'entreprise. Et cet esprit d'entreprise avec cette espèce d'audace qu'on retrouve chez certains scientifiques. Vous savez que, par exemple, on dit que au moment de faire explosé la première bombe atomique, qui était une bombe expérimentale, mais voilà, pour avoir une bombe atomique, il faut une masse critique. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire exploser les micro-bombes. La première chose qui explose atomiquement, c'est une vraie bombe. Et ça a été à la Hamogordo. Et un des physiciens qui était réuni là, qui avait enfanté cette petite chose, s'est mis à inquiéter ses collègues en disant, mais au fond, vous savez, ce que nous connaissons de l'oxygène, de l'atmosphère en général, est purement et simplement lié au type d'énergie que nous avons pu déclencher jusqu'ici. Donc, c'est une grande inconnue de savoir ce que peut l'oxygène face à une telle déchaînement d'énergie brutale. Et rien n'exclut que ça déclenche une réaction en chaîne dont nous n'avons pas les mécanismes, mais c'est parce que nous ne les avons jamais touchés, enfin, touchés aux sources énergétiques. Donc il se pourrait que demain, toute l'atmosphère de la Terre soit embrasée. Ouais, ben, il y a eu un peu d'émotion, ça a mis de l'ambiance. Et Fermi a eu le mot de la fin. Oui, peut-être. Mais c'est une trop belle expérience pour qu'on y renonce. Et ça, c'est un entrepreneur.
Oui, oui.
Ça, c'est un entrepreneur.
Ça renvoie à la confiance.
Ça renvoie, et les entrepreneurs, faut pas les mettre dans le coin, mais ils doivent être bien entourés, quoi. Et donc, je crois qu'effectivement, on se heurte toujours dès que l'on veut, mettre en politique ou en écologie politique. Ce genre de problème, eh bien on se heurte à la liberté d'entreprendre, qui du coup se corrèle aux lois du marché. Si vous voulez nous mettre des obstacles, vous devez nous dire pourquoi, jusqu'à quel point, à quel titre, et nous indiquer exactement ce que nous ne pouvons pas faire. Et à ce moment-là, les entrepreneurs, évidemment, transformeront la différence entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire en quelque chose qu'ils feront proliférer dans des directions inattendues. Mais ils ont besoin qu'on leur pose des limites pour savoir avec quelles limites ils vont pouvoir jouer.
Oui, tout à fait.
Donc, ils ne collaborent pas pour le moment tels qu'ils sont éduqués à une décision politique collective. Ils demandent qu'on la leur impose parce que ça va devenir un ingrédient de nouvelles entreprises. Mais alors, il faut l'imposer à tous, hein. Vous voyez, donc il y a quelque chose dans cet esprit d'entreprise qu'il faudrait penser et pas dénoncer. Mais qu'il faudrait penser pour civiliser les entrepreneurs.
Sandra, il y avait une question.
Oui, j'ai une question par rapport, on va dire, le fonctionnement du jury citoyen. Ce que je serais intéressé à savoir, c'est votre opinion sur la façon de fonctionnement d'un jury citoyen, dans le sens où le scientifique, les experts vont se contrecarrer et s'opposer au cours de ce jury citoyen pour arriver, je pense, extrêmement rapidement à la reconstitution de ce déficit de la populace qui ne connaît rien aux problèmes scientifiques en développant des stratégies d'exposition qui vont en fait cacher les enjeux réels du débat, notamment en jouant avec du jargon scientifique, en jouant notamment tout le théâtre de la preuve scientifique avec lesquels les scientifiques s'opposent à partir du moment où ils quittent le laboratoire, qui en général se passe à un niveau technique qui dépasse le niveau du jeu des citoyens. Et le jeu des citoyens ne va pas faire une décision en fonction, ne va pas prendre une décision sur la science, sur la procédure. En fait, il va prendre une décision sur une procédure de contre-expertise qu'il ne comprend pas.
Mais je crois que...
Il n'est pas assez transparent, si vous voyez ce que je veux.
Mais je crois que ce que je ne comprends pas dans votre propre analyse, c'est que s'il y a véritablement une situation de controverse, je veux dire, en tout cas les contre-experts, ceux pour qui ce jury est une chance d'éventuellement compliquer quelque chose qui sinon à la voie royale du progrès, etc., ben, l'un des travaux du contre-expert, ça va être, mais sous la surveillance de l'expert, qui ne laissera pas dire, d'essayer de fabriquer en termes clairs ce qui, pour lui, est le nœud du problème. C'est-à-dire que c'est justement la dynamique expertise. Vous savez, hein, quand on connaît les experts, j'en connais quelques-uns, entre experts et contre-experts, il y a une espèce de lassitude et de connivence telle que un tel sait les limites d'un tel, donc il ne va même pas essayer de discuter avec lui parce qu'il connaît ses limites. Et l'autre va dire, oh, celui-là, il est de mauvaise foi. Donc, ça discute très peu. La discussion, c'est quelque chose qui doit être forcé. Et qui est forcé par la présence de témoins intéressés qui disent, mais enfin, alors cette question-là qui a été posée, comment vous y répondez? Vous voyez, c'est le jury intéressé qui force une discussion qui sinon n'a lieu nulle part. Et c'est-à-dire qui donne, et c'est ça qui pour moi est, je dirais, l'alpha et l'oméga, qui confère à la situation discutée le pouvoir de faire discuter les experts. Cela se passe normalement parmi ce que j'ai appelé les collègues compétents. La question de savoir si le dispositif est fiable, la controverse, elle se produit. Ça peut discuter quand tout se passe bien. Quand on est au niveau des experts sur une question qui, justement, ne peut pas se décider au laboratoire, n'est pas une réussite expérimentale possible, tout cet appétit de la controverse s'écroule. Il s'agit de réussir à la réactiver. Et le jury citoyen, je ne dis pas que c'est la seule chose, mais le jury citoyen est un de ces dispositifs qu'il ne faudrait pas gaspiller pour réactiver ce qui est pour moi la seule source de fiabilité scientifique, c'est-à-dire le caractère vivant et exigeant des controverses. C'est-à-dire une objection, ça compte. Et il ne s'agit pas de la renvoyer d'un revers de main. Non, non, il faut répondre. La manière dont on s'y confronte est ce que le citoyen regarde. Vous voyez, les citoyens, ils regardent et ils sont capables, dans ce que j'ai vu, ils sont très sensibles à la manière dont.
Justement, moi, mon inquiétude, c'est par rapport à la manière. Parce que, par exemple, je vois un petit peu, maintenant, il y a ce problème de donner confiance qui font qu'il y a une montée des gens vont utiliser le fait qu'on leur donne confiance et on parle aussi de mériter cette confiance qu'on leur donne. Maintenant, quelles sont les procédures qui vont être mises en place par les gens autour de cette espèce de justice de la science, de l'expertise, de la contre-expertise pour essayer de se montrer? Alors, on va arriver avec un secteur éventuellement de la part des scientifiques, je pense aux experts, contre-experts, ils vont utiliser probablement des procédures assez populistes. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment arrivé avec... Alors, est-ce que ça va restaurer la confiance? Et puis, est-ce que ça va détruire encore plus la confiance en la science?
Mais
c'est quand même un quand jeu
vous dites, pas, quand vous
c'est
dites,
beaucoup d'hypothèses.
Ça fait beaucoup d'hypothèses. Quand vous dites populiste, vous reprenez l'idée, la populace est indigne de confiance. Donc, on va s'adresser à elle avec des arguments démagogiques. C'est pas ce qui se passe dans les jurys d'assises. C'est pas ce qui se passe dans les combats d'assises. Et c'est justement l'intérêt de la notion de jury d'assises que, apparemment, quand on est tiré au sort et sélectionné sans mérite, mais comme citoyen quelconque représentatif, eh bien, les questions d'être séduit, etc., comment dirais-je, deviennent moins puissantes que la question comment être à la hauteur de la situation où on nous a mis. Mais ça, c'est quelque chose. Mais donc, si vous venez avec des questions générales comme alors ils vont être séduits, etc., moi je dis il faut expérimenter. Et ce que vous dites, il faut expérimenter. Parce que c'est une des ressources, mais nous n'avons pas le droit de l'empoisonner en l'expérimentant mal.
Je vais peut-être devoir vous couper, si ça ne vous dérange pas, parce que oui. Si nous voulons avoir le temps d'entendre Monique Hirschhorn avant de la remettre dans un train qui, on l'espère, la ramène à Paris, on va juste faire une petite pause pendant 5 minutes et D'accord. Puis on reprend.
Je suis désolée.
Non, pas du tout, c'était passionnant. Voilà. C'est très intéressant.